Mussolini l'avait fait incarcérer, mais lisait les cahiers qu'il rédigeait en prison. Il arrive que les fascistes confisquent leurs idées aux révolutionnaires.
Dans la prison de Turi, par le guichet, je le vis pour la première fois. Il écrivait. Il avait un de ses genoux appuyé sur un escabeau et les coudes sur une table sur laquelle était posé un livre.
Prénom ?
Antonio.
Nom ?
Gramsci.
Date de naissance ?
22 janvier 1891, enfant de la Sardaigne pauvre.
Ses études ?
Interrompues pour des raisons économiques, mais reprises à l'université de Turin. Il fréquente les amphis de toute discipline avec un goût particulier pour la linguistique.
Profession ?
Il se dira toujours publiciste, pratiquant un journalisme aussi social qu'original.
Militantisme politique ?
Du Parti Socialiste Italien, il passe à la Troisième Internationale, qu'il servira d'ailleurs à Moscou en 1922-1923. Secrétaire général du Parti Communiste d'Italie, à partir de 1924, élu député de Venise à cette date.
Son arrestation ?
1926. Le procureur déclarera « Il faut empêcher ce cerveau de fonctionner pendant 20 ans ». Et Gramsci ne sera plus jamais libre.
Ses œuvres ?
Les cahiers de prison couvrent quelques 2000 pages format Pléiade, à quoi il faut ajouter les écrits politiques d'avant l'arrestation, la correspondance. La publication en est assurée bien après-guerre par le Parti communiste italien, puis elle devient avec les années plus libre, plus scientifique aussi.
Et sa mort ?
Sa peine s'achevait le 21 avril 1937, il est mort le 27. Il avait imaginé de se retirer loin de la politique qu'en Sardaigne, une seule voiture suivit son cercueil avec son frère et sa belle-sœur. On ne compte plus ceux qui se réclament de lui aujourd'hui. La droite la plus dure lui emprunte sa théorie selon laquelle l'hégémonie culturelle doit précéder la prise du pouvoir.
France Inter. Intelligence, service. Jean Lebrun.
Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
Commençons par la Sardaigne. Il était une fois un moine, prétendument mendiant, qui ne possédait qu'une fève. Il la confia à une paysanne, mais le coq de la paysanne avala la fève. Pour se dédommager, le moine confisqua le coq qu'il confia à une autre femme. Mais le cochon de celle-ci mangea le coq. Alors le moine confisqua le cochon. Et ainsi de suite. C'est ainsi qu'en Sardaigne, le pouvoir appartenait à quelques-uns. À Gilarza, où Antonio passa son enfance, une île dans l'île, entourée de terres arides, la notabilité de sa famille était bien fragile. Atteint d'une tuberculose osseuse qui allait l'emprisonner dans un corps contrefait, Antonio Gramsci ne bénéficia pas de soins suffisants. Et ensuite, le déclassement de son père allait faucher sa jeunesse. Notre premier interlocuteur, c'est Christophe Mileschi, professeur de littérature italienne à Nanterre, traducteur.
C'est une famille qui traverse une longue période de très grande pauvreté lorsque le père Gramsci a alors 7 ans, donc c'est la fin du 19e siècle, je crois que c'est 1898, le père est accusé de corruption, est accusé d'avoir détourné des fonds publics. On n'a jamais très bien su si c'était vrai ou si c'était une vengeance politique, il est probable que c'était vrai. Et le père passe 5 ans en prison, ce qui oblige la mère à faire des petits boulots pour faire vivre la famille, et ce qui va obliger Gramsci à interrompre ses études, et à 11 ans, je crois, à se mettre lui aussi à travailler au cadastre, comme gamin à tout faire, à porter des trucs à droite à gauche pour une poignée de sous. Mais c'est une obligation que la famille a dû affronter pour survivre. Donc c'est de cette réalité-là qu'il vient, une réalité, on pourrait dire, rurale. Culturellement, politiquement, la Sardaigne fait partie des colonies du nord de l'Italie. Elle a été sous le règne du Piémont, sous la domination de la couronne de Savoie piémontaise, mais toujours dans une position subalterne, pour utiliser un terme gramscien, dans une position de terre conquise.
Les habitants de la grande île peuvent apparaître comme appartenant à une époque révolue de l'histoire. Et Gramsci, qui aura sa période régionaliste, se sentira néanmoins toujours proche d'eux. On s'est longtemps souvenu à Gilarza de sa dernière visite, 1926, adossé à un arbre, il parlait en sarde, partageant avec ceux qui l'écoutaient le fromage et la piquette. Mais c'est aussi Turin qui fait sa formation. Une mince bourse lui permet à peine d'y vivre, en ascète, courant les amphis à l'université, lisant sans désemparer dans sa mansarde. Le journalisme, déjà expérimenté en Sardaigne, le requiert très vite, d'abord à l'Avanti, le journal du Parti Socialiste italien, où il signe des articles documentés et volontiers sarcastiques. Turin, 300 000 habitants alors, 100 000 travailleurs de l'industrie, c'est également la découverte du prolétariat. Son camarade Prévolini.
J'ai été présenté par Gramsci
aux ouvriers de la Fiat.
J'ai dit à ces ouvriers, vous travaillez pour créer une nouvelle société. Une nouvelle société qui sera faite par des ouvriers, qui sera votre société. Alors, je vous demande, pourquoi vous voulez changer les institutions, mais vous ne voulez pas changer de coutume? Pourquoi vous n'employez pas la salopette? Pourquoi ne vous mariez pas avec la salopette? Pourquoi vous n'allez pas danser dans la salopette? Pourquoi vous rougissez de porter la salopette? Le dimanche, vous vous endimanchez comme les bourgeois. Alors, ces ouvriers qui étaient là, peut-être 2000, ils sont restés silencieux. Ils n'ont pas sifflé. Parce que j'étais avec Gramsci, mais ils n'ont pas dit un mot. J'ai eu la sensation qu'ils étaient des petits bourgeois, qu'ils étaient pleins de l'esprit bourgeois. Leur idéal, ce n'était pas une nouvelle société fondée sur le travail, mais une société qui détestait le travail, qui voulait avoir l'automobile, qui voulait avoir les dimanches libres pour aller à la campagne. Vraiment, ils ne pensaient pas à une nouvelle société. Il pensait simplement à substituer dans la société bourgeoise leur personne aux bourgeois.
Pourtant, beaucoup d'expériences sont faites à Turin, de grandes grèves, en 12-13, et puis deux années rouges au lendemain de la guerre, quand les comités ouvriers se multiplient, à l'exemple de la Russie et de l'Allemagne. Gramsci y participe, demandant aux ouvriers d'être conséquents. Et c'est ainsi qu'il est repéré par la Troisième Internationale, à laquelle il a adhéré comme une minorité de socialistes qui a constitué le premier parti communiste d'Italie. C'était en 1921. En 22, Gramsci est appelé à représenter ce parti communiste à Moscou, où il va se marier avec une autre militante, Giulia, lui qui croyait qu'il lui serait impossible d'être aimé. Pendant cette année bolchevique, il n'aura donc pas vécu dans la péninsule le contre-coup des années rouges, la marche sur Rome des fascistes que le roi va faire accéder au pouvoir.
Camerati, io potrei dispensarmi dal parlare di questioni di carattere interno. Popolo e regime costituiscono in Italia un blocco assolutamente inscindibile.
Mussolini fonde le Parti National Fasciste en 1921. D'abord les faisceaux de combat en 1919, donc ça va très vite. Et c'est une époque tumultueuse, hein. C'est une époque où après la guerre, il y a en Italie en particulier le Biennio Rosso, les deux années rouges, où ça chauffe très fort, hein, les masses exsangues qui ont été ponctionnées par l'effort de guerre, qui ont tout porté, sont en train de comprendre qu'on s'est payé leur tête, qu'on leur a promis des choses qui n'arriveront jamais, qu'elles ont pris des vessies pour des lanternes, que l'effort de guerre qui devait amener un monde meilleur amène simplement qu'il y a des morts dans toutes les familles, qu'on a perdu un fils, qu'on a perdu un cousin, qu'on a perdu un frère, qu'on a perdu un père, et que tout ça ne va pas dans le sens de la justice sociale. Donc c'est un moment de grande effervescence, et le génie politique de Mussolini, c'est de réussir à récupérer une partie de cet émoi populaire, de cette violence populaire, une partie seulement, bien sûr, et de trouver un financement du côté du grand capital pour réaliser l'opération de nettoyage de la protestation communiste et socialiste et interdire assez rapidement, interdire la presse d'opposition, les partis d'opposition. Ça va très vite. En 1925, tout le monde est balayé, quoi. Il n'y a plus que le parti fasciste qui est autorisé.
Cependant, en 1924, il y a eu une possibilité de retournement. C'est l'année où Gramsci a pu rentrer en Italie, se croyant protégé par l'immunité parlementaire. Il a été élu député. Mais cette même année, un autre député socialiste, lui, Matteotti, est enlevé par les fascistes et assassiné. Un moment, Mussolini vacille et Gramsci, qui devient secrétaire général du Parti communiste d'Italie, se prend à espérer qu'une convergence des oppositions va le faire tomber. Mais, en 1925, en effet, le Parti communiste d'Italie se retrouve bien isolé. Une nouvelle loi contre les sociétés secrètes est présentée à la Chambre, où Gramsci va intervenir pour la première fois. Il ne parle pas très fort. Les fascistes se rapprochent pour l'entendre et l'interpeller, sans néanmoins l'interrompre.
Messieurs, messieurs, silence s'il vous plaît. La parole est à monsieur Gramsci.
En tant que parti communiste, nous demandons non seulement pourquoi ce projet de loi contre les organisations en général a été soumis à l'Assemblée, mais aussi pour quelles raisons profondes le parti fasciste a présenté cette loi dirigée essentiellement contre la franc-maçonnerie.
Messieurs, messieurs, un peu de silence. Je vous en prie, député Gramsci.
Nous demandons pourquoi maintenant, depuis plusieurs mois, sans que le Parti communiste ait été déclaré association de malfaiteurs, les carabiniers arrêtent nos camarades toutes les fois qu'ils sont plus de trois se réunir.
Nous faisons ce que vous faites en Russie. Vous faites des races formidables. Vous faites très bien.
En réalité, l'appareil de l'État considère déjà le Parti communiste comme une organisation secrète.
Ce n'est pas vrai.
En attendant, on arrête sans aucun chef d'accusation précis quiconque est trouvé dans une réunion de trois personnes rien que parce qu'il est communiste et on le jette en prison.
Et ils sont vite relâchés. Combien y en a-t-il en prison? Nous les attrapons simplement pour les connaître.
On dit que Mussolini, présent ce jour-là à Montecitorio, le siège du Parlement, se serait approché de Gramsci à la buvette, mais que celui-ci aurait refusé de lui serrer la main. Il se réfugie dans une demi-clandestinité, il ne reviendra jamais parler à la Chambre. Il ne vit pas non plus avec sa femme et son fils Delio. Tous deux quittent l'Italie pour l'URSS, l'été 26, juste à temps. Giulia est enceinte d'un deuxième garçon qu'Antonio ne verra jamais. En octobre 1926, il a le temps de poser un dernier acte au nom d'un droit de regard sur l'URSS que s'attribue son parti, frère. Il ose critiquer les méthodes viciées par la bureaucratie avec lesquelles Staline s'attaque à Trotsky. C'est au moment précis où Staline va commencer à se défier de lui que Mussolini le fait arrêter.
Ragazzo gentile, guida.
Intelligence, service. France Inter.
Monsieur Lebrun, Gramsci avait trop confiance en son immunité parlementaire qui ne l'a pas protégé. Ne pêchera-t-il plus jamais, par optimisme?
Non, il s'avère en réalité plus clairvoyant que nombre de ses camarades sur le sort qui les attend. Il pense que le fascisme peut durer longtemps car, à son fondement, préexistait une séduction de ses idées qui avait précédé son arrivée au pouvoir. L'hégémonie politique est autrement solide dès lors qu'est assurée d'abord l'hégémonie culturelle, mot-clé pour Gramsci. Le témoignage de son camarade Giuseppe Berti en 1926, alors qu'ils attendent leur relégation dans une île, Ustica, au large de la Sicile.
Ce fut une rencontre improvisée et inattendue qui, naturellement, me fit un énorme plaisir. Je trouvais un Gramsci hilare, détendu, tranquille. Je lui dis que cela ne devrait pas trop durer, que nous serions bientôt de nouveau au combat, etc. Il me répondit que nous ne devions pas nous faire d'illusions, qu'il y aurait une période longue et dure de domination fasciste, et que nous n'en sortirions qu'au bout de longues luttes. Que nous devions nous préparer à une bataille difficile, qu'il fallait compter en années, et ne pas croire que tout cela finirait rapidement, en quelques mois.
Encore un peu de temps, et en 1930, il en viendra à penser qu'il faudra, pour venir à bout de Mussolini, rassembler les antifascistes de tout poil autour d'un projet de constituante démocratique et républicaine. Ce qui n'est pas précisément la consigne plus sectaire de l'internationale stalinienne. En attendant, son régime de détention va se durcir. D'Ustica, où il pouvait au moins vivre dans l'attente de l'arrivée du bateau deux fois par semaine, il passe dans des prisons. San Vittore, Turi. Il lui faut de longs mois pour bénéficier des droits du détenu. Du papier pour écrire, des livres à lire. Il ne pourra au mieux disposer sur sa table que 4 livres et 2 cahiers. Dans une lettre à son frère Carlo, qui lui sera toujours fidèle, il dit qu'une visite de sa mère, Pépina, serait une trop cruelle épreuve pour elle.
19 décembre 1929. Très cher Carlo, j'ai reçu la lettre de maman du 4 décembre et la tienne du 13. Je te prie de ne plus mettre en tête à maman qu'il lui est possible de venir à Turi. La seule pensée d'une telle éventualité m'épouvante. Je pense que le premier contact avec la prison a produit, même sur toi, une très forte impression. Imagine quelle impression ça pourrait produire sur elle. Il me semble qu'il faut l'éviter à tout prix. Et puis, qu'est-ce que tu lui as raconté ? J'espère que tu n'as exagéré en aucun sens. D'ailleurs, tu as vu toi-même que je ne suis ni abattu, ni découragé, ni déprimé. Mon état d'esprit est tel que même si j'étais condamné à mort, je continuerai à être tranquille. Et peut-être même que la veille de l'exécution, j'étudierai une leçon de chinois. Très chère Tania, comment faire pour ne pas perdre son temps en prison et pour étudier quelque chose d'une façon ou d'une autre. L'étude des langues modernes est assurément des plus profitables. Il suffit d'une grammaire qu'on peut trouver même parmi les occasions des bouquinistes pour presque rien, et quelques livres, éventuellement d'occasion, là encore, dans la langue qu'on a choisi d'étudier. Le tout est de donner un but à ses lectures et de savoir prendre des notes, si on a l'autorisation d'écrire. Je donne 2 exemples. À Milan, j'ai lu une certaine quantité de livres de tout genre, en particulier des romans populaires, jusqu'à ce que le directeur m'ait permis d'aller moi-même à la bibliothèque pour choisir parmi les livres qui n'avaient pas encore été donnés en lecture ou parmi ceux qui, en raison d'une saveur politique ou morale particulière, n'étaient pas proposés à tout le monde. Eh bien, j'ai trouvé que même Sue, Montépin, Ponson du Terrail, etc., pouvaient suffire si on les lisait de ce point de vue. Pourquoi cette littérature est-elle toujours la plus lue et la plus imprimée? Quels besoins satisfait-elle? À quelles aspirations répond-elle? Quels sentiments et quels points de vue sont représentés dans ces mauvais livres pour qu'ils plaisent autant?
Donc la littérature populaire, rocambole, Gensu, le mélodrame, oui. le théâtre populaire, quand il raconte, il a été critique théâtral pendant 5 ans à Turin, quand il raconte qu'il allait au théâtre, il dit... C'était très intéressant ce qui se passait sur scène, mais ce qui se passait dans le public était au moins aussi intéressant. De regarder les réactions de la foule pour comprendre quelles sont les passions populaires. Parce que pour lui, l'intellectuel ne peut pas simplement penser, il faut qu'il sente. Un intellectuel qui ne sent pas ce dont il parle est un pédant, il dit en substance. Et inversement, quelqu'un qui fait que sentir est un fanatique. Donc l'équilibre, le véritable intellectuel est un intellectuel sensible. Quelqu'un qui sent les passions du peuple. Et pour la littérature populaire, c'est pas simplement qu'on y trouve deux, trois choses intéressantes, c'est que là, il comprend que c'est là que se forme le sens commun, que c'est là que se forme ce qu'on appellerait aujourd'hui l'opinion publique, et que c'est là qu'il faut aller enquêter pour comprendre comment les gens sentent, ce que les gens aiment, pour aller vers eux et les amener, bien sûr, à un degré de connaissance et de conscience plus élevé, en vue toujours, hein, c'est toujours son objectif, du changement de ce monde.
Et pour le changement, créer un nouveau type d'intellectuel qu'il invente à l'articulation de l'infrastructure et de la superstructure. En langage marxiste, l'infrastructure est organisée en classes sociales, antagonistes, complémentaires, ou bien concurrentielles selon leur place dans la production. La superstructure distribue les idées et les représentations. Et les intellectuels tels que Gramsci les imagine, les intellectuels organiques, sont appelés à faire l'articulation, à faire le lien, d'autant plus facilement s'ils sont issus des classes qui méritent la reconnaissance et aspirent à s'émanciper par le parti, le syndicat, l'association. Bien d'autres filières que la communiste pourront prétendre à former des intellectuels organiques, à commencer par la catholique. Christophe Mileski.
Quiconque, quelle que soit son activité, même l'activité la plus dégradée, dit-il, l'activité la plus bassement physique, en réalité, d'une part, fait appel à l'intelligence pour accomplir cette activité, met en œuvre une faculté intellectuelle, et ça, ma foi, il suffit d'avoir pris une fois une perceuse dans sa vie pour savoir qu'effectivement, percer un trou dans un mur, ça n'est pas simplement une activité physique, ça requiert une compétence intellectuelle. Et d'autre part, chacun est philosophe, parce que dans sa vie de tous les jours, par sa pratique de tous les jours, il accomplit une philosophie. Il agit quelque chose qui est un modèle, une façon de vivre, une conception de vivre en acte. Ça, c'est très fort aussi, je trouve, de sa part. Là encore, de ne pas dichotomiser, de ne pas séparer l'intellectuel du prolétaire, en disant le prolétaire, il faut l'amener au niveau intellectuel. Il s'est d'ailleurs battu avec ses camarades communistes sur ce point, parce que beaucoup ne comprenaient pas du tout ce qu'il voulait dire. Ils considéraient que les masses étaient un culte et qu'il fallait d'abord les amener à vouloir se battre pour le monde nouveau dans une guerre de mouvement, alors qu'il était, lui, convaincu que la guerre de mouvement était perdue d'avance et que c'était la guerre de position qu'il fallait faire, c'est-à-dire la guerre pour l'hégémonie culturelle. Donc comment ça se passe? Ça se passe par tous ces moyens. Certains qui sont évidemment hors d'atteinte, on peut pas rentrer dans les églises, remplacer le curé et faire un prêche à sa place. En revanche, pour ce qui est du journalisme, on peut essayer de former dans la masse prolétaire des intellectuels, ce qu'il appelle l'intellectuel organique, c'est-à-dire des gens qui sont solidaires des classes prolétaires, qui vont devenir des intellectuels, qui se feront les porte-parole, pas seulement intellectuels, mais aussi sensibles, de ce qui est la réalité du monde paysan et du monde ouvrier, et en faire, pourquoi pas, des maîtres d'école, des professeurs d'université qui porteront cette culture, la culture des masses, et qui, peu à peu, vont, par une guerre de position, occuper le terrain, hein, ce qu'on pourrait appeler de l'entrisme. Donc ça travaille de longue haleine. Hein. Gramsci est certainement pas quelqu'un qui pense que la révolution peut s'obtenir en un coup de cuillère à peau, par un acte de violence immédiat. Certainement pas. Il ne le pense pas avant 1917, il ne le pense pas non plus après 1917.
Un travail qui passe par l'innovation linguistique, il s'intéresse beaucoup au laboratoire d'innovation linguistique. Comment de nouveaux mots peuvent-ils pénétrer avec des intentions pour les porter dans les médias, les journaux, la radio qui commence son œuvre et dont Mussolini s'est assuré la maîtrise. Gramsci s'est fixé un programme de travail duquel il ne viendra pas à bout. Parce que, avec les années, sa tuberculose osseuse s'aggrave, se déclare une artériosclérose, l'insomnie dévore ses forces. Et en 1933, lorsque vient d'échouer pour la seconde fois une tentative d'abréger sa peine, il va enfin pouvoir bénéficier d'une hospitalisation dans une chambre de clinique surveillée. Il envisage en 1937 de retourner en Sardaigne où survit son père, à Gilarza, et il meurt, 4 jours après être redevenu théoriquement libre, en avril de cette année. Son convoi est suivi par Tatiana, sa belle-sœur, et par Carlo, son frère. Il est enterré dans un cimetière consenti à Rome ou non catholique. Un cimetière où Pasolini s'est recueilli, tirant de sa visite des poèmes que Giovanna Marini a mis en musique.
Inter. Intelligence, service.
Monsieur Lebrun, Gramsci est mort quasiment seul. Et son nom était de moins en moins prononcé. Comment expliquer que son œuvre ait ressurgi au point d'être lue, commentée, retournée parfois, un peu partout dans le monde ?
D'abord, il y a eu l'action du secrétaire général du Parti communiste italien, Palmiro Togliatti, qui avait été le camarade d'université de Gramsci, et qui va se prendre de passion pour les cahiers de prison, les rapatrier en Italie, et en faire une édition par thème, qu'il surveille de très près jusqu'au début des années 1960. Il érige Gramsci à la fois en martyr et en théoricien. Mais la figure de Gramsci, communiste critique, ne va émerger qu'ensuite, peu à peu, à la faveur d'éditions plus justes et d'événements comme la révolution de la Hongrie et celle de la Tchécoslovaquie, réprimée par les soviétiques, 1956-1968. La référence à Gramsci permet alors au Parti communiste italien d'afficher une voix propre, qui à tort ou à raison paraît moins orthodoxe que celle du communisme français. Intégrant Gramsci, le Parti communiste italien intègre plus facilement la société italienne. C'est une raison de son succès posthume. Mais la pensée de Gramsci déborde de plus en plus de son lit initial. En témoigne notre second interlocuteur. Il vient du catholicisme, aucunement du marxisme. Savoisien d'origine, il est un peu italien. Il s'appelle Marin Viry et il tient chronique à la Revue des Deux Mondes, dont le conseil d'administration ressemble peu à un comité central communiste. Il respecte d'abord chez Gramsci le journaliste, aussi curieux que sarcastique.
C'est un journalisme qui est motivé par la curiosité, qui développe au fond une sorte de technique d'observation, mais qui débouche toujours sur une proposition critique. C'est ce journalisme-là, d'ailleurs, qui est au fond un journalisme d'investigation, mais qui n'a pas pour but de dévoiler les choses cachées, qui a pour but d'abord de rendre compte de la réalité. C'est ce journalisme-là qui est aussi frais quand on lit, en fait, les articles qu'il a lus à l'époque.
Oui, mais après, il a dirigé un journal. Il ordinait nouveau, oui. Pendant peu d'années aussi, mais parfois quand il lisait les Maurras, avant que ça ne parte à l'imprimerie, il disait « mais enfin, c'est pas un journal, c'est un sac à patates ». Qu'est-ce que c'est un mauvais journal? Qu'est-ce que c'est un bon journal? Peut-être êtes-vous d'accord sur les caractéristiques de l'un et de l'autre.
Sac à patates, ça veut dire que ça emballe de la marchandise, j'imagine, dans son esprit. Et donc ça emballe une marchandise idéologique, une marchandise de préjugés, une marchandise de slogans, une marchandise de...
Mais il appelait, comme Charles Péguy, qu'il lisait, oui, à une réforme éthique. Il n'y aura pas de révolution sociale sans réforme morale. Mmh. Et ça passe par une réforme du journalisme.
Oui, je pense que ce qu'il admirait chez Peggy, je fais l'hypothèse en tout cas, c'est le fait que Peggy avait lâché son salaire de fonctionnaire pour créer la quinzaine. Et qu'il y a dans cet exemple quelque chose qui parle à Gramsci de son propre engagement au service de la cause.
Florence Aubenas est dit « Moi, je négocie avec mes rédactions un salaire que je puisse rendre public. »
Oui, oui.
« Si je dois le dissimuler, je n'en veux pas. »
Oui, 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 ben c'est l'idée. L'idée, c'est la décence. La décence par rapport, je dirais même, à ce dont on parle. C'est-à-dire, si on parle de la condition ouvrière, c'est quand même difficile d'avoir un salaire indécent. Si on parle de sauver la France, c'est difficile d'avoir un salaire indécent, etc. Au fond, c'est la correspondance entre l'honorabilité du sujet et son propre honneur professionnel.
Mais paradoxalement, ce n'est pas par une presse qui prêche l'exemplarité morale que le nom de Gramsci va en France pénétrer le grand public en 1978-1981. Alors un peu partout, la crise économique marque dans les sociétés occidentales la fin d'un cycle. Thatcherisme, Reaganisme vont incarner le cycle suivant. La France est un peu à contre-courant, qui élit François Mitterrand. Mais une nouvelle publication, qui passe pour être seulement un magazine sur papier glacé, Le Figaro Magazine, va remettre en avant le nom de Gramsci. À la manœuvre au Figaro Magazine, Alain de Benoist, le chef de file de ce qu'on a appelé la nouvelle droite, grand lecteur et qui trouve une possibilité d'élargissement de ses hypothèses avec le Figaro Magazine, et dans la cabine du commandant, Louis Powels, qui vient de la revue ésotérique Planète.
Vous connaissez Gramsci ?
Non, très mal. Non.
Gramsci, oui, théoricien marxiste italien, le fondateur de l'Unita, qui a eu une influence considérable sur toute l'idéologie de la gauche. Pourquoi ? On va d'ailleurs publier bientôt ses carnets de prison, qui ont été le fond de sa pensée, qui a influencé tous les pays marxistes européens. Et Gramsci a expliqué que dans les sociétés avancées, la façon de conquérir le pouvoir politique, la manière de devait passer nécessairement par la conquête de la culture, par la conquête des universités, de la littérature, des médias, du cinéma, des arts, etc. Que cela permettait de jouer sur les valeurs d'une civilisation, de modifier la résistance des sensibilités et des intelligences, et qu'au bout de cette action, le pouvoir politique tombait entre les mains de ceux qui avaient conquis le pouvoir culturel. Je pense que la société libérale, dite abusivement d'ailleurs de droite, a négligé considérablement l'enseignement de Gramsci, et elle l'a ignoré. Et elle a laissé la culture, l'enseignement, les médias, les arts, à l'idéologie de la gauche qui les a investis. Je pense qu'il serait temps de préparer une contre-offensive et d'une contre-idéologie dans le domaine de la culture, des médias, etc.
Et il est des journalistes malins qui sont même capables de retourner les poches de ceux qu'ils volent. Encore que Marin Viry.
Si j'avais été à la tête du Figaro Magazine à l'époque, je ne me serais pas lancé. La droite doit proposer des romans, la droite doit proposer une certaine vision du monde, la droite doit proposer des idées, la droite doit proposer tout ça, bien sûr. Mais se mettre sur le terrain de l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire d'une bataille idéologique avec la gauche, c'est un peu ce qu'a fait l'Action française et ça a foutu par terre le mouvement monarchiste en France. Et c'est ce qu'a voulu réessayer Alain de Benoist. On pourrait dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a de nouvelles tentatives. Mais ces tentatives sont pour moi, en tout cas du point de vue des intérêts profonds de la droite, vouées à l'échec.
Oui. Pardonnez-moi de prendre des images simplistes, mais quand Nicolas Sarkozy dit, d'un air pénétré, au fond, moi je parlerai comme Gramsci, notre objet, c'est l'hégémonie culturelle.
Ouais. Ben, je pense qu'il se trompe. Je pense que c'est pas du tout l'objet de la droite. Et la droite n'est pas majoritaire dans les idées, la droite est majoritaire dans les sentiments, c'est-à-dire qu'à un moment on préfère l'ordre, disons, existant, on préfère préserver l'ordre existant plutôt que de rentrer dans un désordre dont on ne sait pas où il nous mène, tout simplement. Donc préférer la stabilité de l'union nationale à l'instabilité de la désunion nationale, oui, d'accord. D'accord, sa formule a du sens. Mais ce n'est pas du tout ça dont parle Gramsci. Gramsci, il parle d'une lutte politique qui passe par la domination culturelle, c'est-à-dire la création d'un certain nombre d'idées qui sont vues comme allant de soi par l'ensemble de la société, parce qu'elles ont une capacité de séduction et une capacité aussi d'oppression, qui fait que si on a envie d'être du côté du manche, ben on n'est pas contre. Et comme en plus ça a l'air plutôt agréable, et ben on n'est pas contre non plus. Voilà, c'est ça l'hégémonie culturelle vue par Gramsci. Ces hégémonies-là, moi j'en ai vu plein dans ma vie, j'en ai vu plein.
Alors racontez vos rencontres, vos chocs avec les hégémonies culturelles.
Alors, pour moi, la première hégémonie culturelle, c'est celle que j'ai connue. Alors, quand je suis rentré à Sciences Po, on a commencé par m'expliquer que la 5e République, c'était ce qu'il y avait de mieux. Bon, tout le monde était d'accord avec ça. Ensuite, on a eu quand même, dans la foulée, l'Europe et notre horizon. Et puis aujourd'hui, on est sorti de ça, et on est dans le communautarisme à l'américaine. Et ça, ce serait une hégémonie culturelle qui n'aurait pas de base démocratique, parce qu'il n'y a quand même pas une majorité en France pour être d'accord avec ça. Ensuite, il y a l'autre qui est le nationalisme et la solution. Je demande à ne pas choisir.
L'aventure du Puy du Fou est née de reconnaissance pour une enfance heureuse. Le village, le bourg, les fermes, le coq, l'enclume, et l'Angélus, c'était une symphonie.
Il existe une terre millénaire, où les premières lueurs du jour ramènent à la vie les récits légendaires et les destins glorieux. Il existe une terre où les héros sont éternels.
Le nationalisme comme solution et les autres hégémonies culturelles, dirait Marin de Viry. Je demande à ne pas choisir assez d'hégémonies culturelles, alors que, dit-il, la vraie question, c'est pourquoi l'extrême droite est-elle à nos portes, Marion Maréchal Le Pen.
En réalité, je suis en train aujourd'hui de suivre les recommandations d'un certain Gramsci. Alors, pas l'idéaux de Gramsci, Gramsci sans la lutte des classes, Gramsci sans l'idéologie de la gauche, mais Gramsci pour la méthode de conquête du pouvoir. Gramsci a conceptualisé l'idée qu'avant d'espérer vaincre sur le plan politique et sur le plan électoral, il fallait d'abord vaincre sur le plan culturel.
Un certain Gramsci. On a vu récemment une tête de liste Rassemblement National, ancien présentateur de télévision par ailleurs, citer un certain Ramzi, Z-Y. À force de citations, le contenu exact des cahiers de prison ne comptent plus, comme se sont omis du paysage les fascistes qui ont enfermé leur auteur. Seul importe la volonté d'imposer un pouvoir sur les représentations. Représentations ? Mais non, nous est-il répondu. C'est pas des représentations, c'est le réel, le désordre, l'insécurité qui est réactionnaire, pas la représentation. Et ce qui devrait vous sauter aux yeux comme une évidence, vous n'avez donc plus le voir, Christophe Mileski.
Alors moi, je crois qu'aujourd'hui, on vit ce que Gramsci appelle une crise. Une crise organique. C'est-à-dire qu'il y a un divorce une rupture entre l'hégémonie politique, ce qu'il appelle la classe dirigeante, c'est-à-dire les gens qui gouvernent et qui font à peu près la même politique depuis 30 ou 40 ans, ou peut-être même plus longtemps que ça. En gros, la même depuis Thatcher et Reagan, pour simplifier. D'un côté, donc la classe dirigeante, et là, ça bouge pas. Hein, on a des gens de droite, de gauche, du centre, du milieu qui sont là, ils font la même politique. Et puis on a, dans le sens commun, ou dans le bon sens, d'une grande partie de la population, il est évident que ce que nous raconte la classe dirigeante, ça tient pas debout. Hein, on peut pas continuer à dire, pour résoudre le chômage, on va privatiser, pour résoudre le chômage, on va faire 45 milliards de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises. Je pense que la population, disons l'opinion publique ou le sens commun, sait maintenant très globalement que ça tient pas debout, qu'on nous raconte des bêtises. D'où les gilets jaunes. Hein, je pense que ça naît de là, hein, de ce hiatus profond entre ce qu'on fait et ce qu'on dit, entre la théorie et la praxis, aurait pu dire Gramsci. Maintenant, la réponse de la classe dirigeante, à mon sens, c'est d'essayer d'instiller dans le sens commun des idées qui vont lui permettre de rester en place, de faire croire que les problèmes, ça n'est pas les 45 milliards de cadeaux fiscaux aux entreprises, ça n'est pas le fait que tel milliardaire a gagné 10 milliards de plus l'an dernier alors qu'il avait déjà 100 milliards. Ça n'est pas le fait qu'on licencie dans les entreprises qui font du profit, que le problème, c'est qu'il y a un péril islamique en France. Que le problème, c'est qu'il y a trop de migrants en France, trop d'immigrés en France. D'essayer de dévier le curseur pour rentrer dans le sens commun des, moi, ce que j'appellerais des faux-semblants, des chiffons rouges, qu'on agite comme ça pour canaliser la protestation populaire, la colère populaire. Donc c'est une opération d'hégémonie culturelle. Et je pense que les classes dirigeantes, les classes au pouvoir, sont très largement responsables depuis longtemps de la montée de l'extrême droite. Alors, est-ce que l'extrême droite est installée dans les consciences ? Non, je ne crois pas. Je pense que ce que je dis là, je pourrais le dire à pas mal de gens qui seraient d'accord avec une bonne partie de ce que je dis. J'ai déjà parlé avec des gens qui votent Front National, et assez vite, si je leur dis « Mais tu ne crois pas quand même que le vrai problème, ce n'est pas le travailleur immigré qui fait la prière, qui fait le ramadan Je ne crois pas que c'est un peu plus grave que un tel qui a 100 milliards de fortune personnelle et 110 milliards cette année et aura 120 milliards l'an prochain. 120 milliards, non mais tu te rends compte de ce que ça fait et combien ça fait d'emplois et combien ça pourrait régler plein de problèmes ?» Et qui me répond « Oui, c'est vrai, tu as raison, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-haut ? C'est inaccessible. Alors il faut bien s'en prendre à quelqu'un qui est à notre portée. » Cette réponse qui vient de quelqu'un qui travaille dans la restauration... pour moi, est magnifique. C'est une conscience politique aiguë.
C'est une opération d'hégémonie culturelle que de retirer à Gramsci son fondement, c'est-à-dire la lutte des classes, c'est-à-dire tout simplement la réalité des classes. On a du mal à parler en classe aujourd'hui en France. Alors on met d'un côté les modérés et de l'autre les antisystèmes. Les insoumis, eux, tracent la ligne de démarcation entre la caste médiato-politique et les gens. En général, désignation aussi molle qu'indifférenciée, les gens. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas porter, et ça ce serait gramscien, une nouvelle attention aux nouvelles configurations que prennent aujourd'hui les classes populaires invisibilisées? On va finir à la sortie du tribunal des prud'hommes avec les grévistes d'un hôtel Ibis aux Batignolles.
Alors, ça fait 20 mois que vous êtes en grève. Hein.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette lutte ?
Nous, on s'est mis en grève pour pouvoir sortir du silence, pour revendiquer nos droits. Et on demande au groupe Accord de nous baisser la cadence. On demande au groupe Accord de nous donner des primes de panier. On demande au groupe Accord de nous changer la qualification. On demande au groupe Accord de nous internaliser. Ce n'est pas un boulot facile, c'est un boulot très, très, très dur et qui fait rentrer beaucoup, nous faisons rentrer beaucoup de sous au groupe Accor.
Les femmes de ménage dans les hôtels Accor, c'est un exemple tout à fait que Gramsci aurait certainement salué comme le passage à un degré de conscience de sa propre condition, de sa propre culture qui amène à une revendication combative. Et ça, c'est un exemple d'hégémonie culturelle. C'est que tout d'un coup, ces femmes de ménage n'ont plus voulu être dupes d'un discours qui leur dit « Votre position est enviable, vous avez vraiment de la chance qu'on vous paye aussi bien pour faire ce que vous faites. Il y en a 10 millions qui attendent derrière vous si vous n'êtes pas contente pour prendre votre place. » Tout d'un coup, elles développent une conscience d'autre chose, une culture d'autre chose. Mais il y a ça dans les Gilets jaunes aussi.
Et Marine Viry serait presque d'accord avec Christophe Mileski.
Il y a un immense prolétariat du tertiaire marchand qui mériterait d'avoir une représentation politique et donc aussi une représentation culturelle. Au lieu de quoi, la représentation culturelle tend, je sais pas, si je prends le cas du théâtre privé ou du théâtre public, n'intègre rien de l'existence de cette immense classe-là. C'est la classe des livreurs de pizza, c'est la classe des techniciens de surface, c'est la classe des gens qu'on voit pas dans le métro parce qu'ils le prennent plutôt que tout le monde. Je ne sache pas qu'ils aient le droit à une représentation culturelle. Ou en tout cas, qu'ils n'en aient le droit qu'à travers, disons, des caricatures communautaristes, justement. C'est-à-dire, au fond, qui visent à les réduire à leurs conditions, mais pas du tout à leur aspiration, pas du tout à leur idéal, et pas du tout à leur inventivité et à leur originalité propre. Où est le Bertolt Brecht qui s'occuperait de cette classe-là? Alors, évidemment, enfin, je ne suis pas naïf là aussi, il y a beaucoup de gens de gauche qui s'en occupent, entre guillemets, mais du point de vue de ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire des représentations artistiques, de l'esthétique, si je puis dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en emparent, me semble-t-il.
Sans front social, dirait Gramsci, il n'y a pas de front culturel, il ne faut pas donner à celui-ci la priorité en négligeant celui-là. C'est l'articulation qui compte, ajouterait-il. Nos remerciements à Christophe Mileski, qui a organisé naguère une journée Gramsci, dont on trouvera les références sur notre site. Marin Viry chronique chaque mois dans la revue des Deux Mondes. On a reconnu la voix de Jean Topard pour les lectures. Giovanna Marini, Les cendres de Gramsci, c'est un oratorio dont on a entendu des extraits sur un texte de Pasolini. À la prise de son, Éric Audra et Yann Frécy, à la maison de Radio France, Florian Dorimini, les agents d'intelligence service, Frédéric Martin et Franck Olivard, la réalisation, Audrey Ripouille.